Un livre est un objet digne de respect.
Absolument.
Comme un in-folio.
Et oui, et cette semaine, nous passons à la culture, la vraie. Celle qui se cherche sous le boisseau de l'ignorance et qui se trouve sous le vernis jauni du temps scélérat. J'ai choisi, sorti de ma bibliothèque, les œuvres du Sieur de Saint-Amand, un ouvrage de 1641. C'est un format in-12, 8,7 cm par 13,5 cm, c'est tout petit, imprimé sous l'autorité de la librairie Jean Berthelin à Rouen, et il fait 279 pages. La couverture est un plein vélin, c'est-à-dire qu'il est recouvert d'une seule peau de veau mort-né, en attendant peut-être une reliure cuir à venir, mais qui n'est jamais venue. Il n'y a donc aucune indication dessus. Le papier est un verger de très belle qualité, aux vergures très fines, un papier sans impureté, parfaitement blanchi, un vrai plaisir du toucher. Marc-Antoine Girard, dit Sieur de Saint-Amand, il n'est pas plus noble que Bernard de Saint-Laurent, est un poète normand des environs de Rouen, mort à Paris. Petite seconde culturelle. Un autre poète est né à Rouen et mort à Paris exactement à la même époque. Autrement plus apprécié de nos collèges, il s'agit de...
Je l'ignore.
Pierre Corneille. Mais... Par ailleurs, parmi les œuvres de Saint-Amand, il y a un poème héroïque dédié au duc Henri II de Montmorency, celui-là même qui permettra à Jean-Baptiste Poquelin de devenir Molière lors de son séjour à Pézenas. Il voyagera beaucoup aussi en s'attachant les faveurs des puissants grâce à son talent. C'est ainsi que Saint-Amand rencontrera Galilée à Rome. Il aurait pu aussi rencontrer Descartes puisque tous les deux voyagèrent vers la Suède en leur temps. Comme quoi ce petit livre, de 1641, passé de main en main pendant 380 ans, peut dire beaucoup de choses. Justement, que nous livre-t-il ? Les textes qu'il contient ne font que quelques pages seulement. En réalité, à l'époque, ils étaient aussi imprimés et vendus séparément au fur et à mesure de leur écriture, ce qui permettait une plus large diffusion. Les rassembler par période pour en faire des livres garantissait par contre la paternité de l'auteur. On verra ça dans un instant. Pour de Saint-Amand, tout est motif à poème, et c'est la plupart du temps sans concession. Poète léger et bon vivant, voire burlesque et satirique, ses titres sont « Bacchus conquérant »,« La débauche »,« Les caparets », mais aussi « Le fromage »,« Le melon » ou « Les goinfres ». Plus sérieux, il écrira « La solitude », »,« Plainte sur la mort de Sylvie », une copine à lui, « Élégie à une dame », »,« Grand voyageur aussi », il fera de très belles descriptions, mais malheureusement, comme il n'aime pas Rome, son épître s'appellera « La Rome ridicule ». Quelques mots de sa préface, faite par un ami qui lui était très fidèle, le dénommé Faret. « La poésie est digne d'admiration lorsqu'elle est montée à ce point qu'il a fait nommer le langage des dieux. Elle a je ne sais quel rayon de divinité. Cette chaleur que les anciens ont appelée génie ne se communique qu'à fort peu d'esprits et ne se fait principalement remarquer qu'aux descriptions, qui sont comme de riches tableaux où la nature, où est la nature représentée. C'est par là que ces grands hommes qui ont mérité les titres de divins et de sacrés sont montés à cette gloire immortelle. Il ne faut voir que les vers de Monsieur de Saint-Amand pour connaître qu'il a pris dans le ciel, plus subtilement que Prométhée, ce feu divin qui brille dans ses ouvrages. Pour les incultes, Prométhée est un titan dans la mythologie grecque qui était en conflit avec Zeus et qui lui pique le feu pour la donner aux humains. La solitude, maintenant, nous allons passer au texte de Saint-Amand. La solitude, ça c'est le premier poème qui l'a fait connaître,
ouais.
Et qui fut l'objet d'infos avant même qu'il ne soit imprimé.
D'accord.
Ce qui l'a amené justement à imprimer ses œuvres par la suite. Que je trouve le doux ravage de ces fiers torrents vagabonds qui se précipitent par bonds dans ce vallon vert et sauvage, puis glissant sous les arbrisseaux ainsi que des serpents sur l'herbe, se changent en plaisants ruisseaux ou quelques naïades superbes comme en son lit natal dessus. Oui, c'est ça. Et comme on dit comme en son lit natal dessus trône de cristal. J'ai du mal à lire parce que l'écriture de l'époque
c'est compliqué,
est très complexe.
Très complexe.
Le V et le U se confondent, le I et le S, c'est pareil. Non, le I, le J, le F, c'est pareil.
Ouais.
Vous allez voir à la fin, je vous dirai quelque chose là-dessus, c'est absolument... Et en plus, la ponctuation est complètement différente de la nôtre. Donc, il faut qu'on la recrée à chaque fois qu'on... Alors donc, un autre...
Tu en as d'autant plus de mérite.
Mais je te remercie. La débauche, maintenant. Nous perdrons du temps à rimer, amis, il ne faut plus cheminer. Voici Bacchus, ce qui nous convie à mener bien une autre vie. Pégase, en fait, n'est qu'un cheval, et pour moi je crois, cher Laval, que qui le suit et lui fait fête ne fuit et n'est rien qu'une bête. Morbieu, comme il pleut là dehors. Faisons pleuvoir dans notre corps du vin, tu l'entends sans le dire, et c'est là le vrai mot pour rire. Chantons, rions, menons du bruit, beuvons ici toute la nuit, tant que demain la belle aurore nous trouve tous à table encore. Loin de nous, sommeil et repos. Boisset, lorsque nos pauvres os seront enfermés dans la tombe, par la mort sous qui tout succombe et qui nous poursuit au galop, là, nous ne dormirons que trop.
C'est magnifique.
C'est beau, hein.
Ouais, c'est magnifique. Très, très beau.
La Gazette du Pont Neuf, c'est une balade. Hein, c'est pas un hasard, tout ça.
Tout à fait.
J'ai vu notre fou de poète avec ses yeux de chouette, sa barbe en feuilles d'artichaut et son nez en pied de réchaud. Vous le voyez sur le Pont Neuf, tout barbouillé d'un jaune d'œuf, depuis 7 heures jusqu'à 11, faire la cour au roi de bronze. Tous ceux qui le rencontrent là demandent qu'est-ce que cela, et s'arrêtent à voir sa trogne comme à voir celle d'un ivrogne. Ces pauvres vers estropiés ont des ampoules sous les pieds à force de courir les rues. Chez lui, les muses toutes nues se repaissent le plus souvent comme il fait, d'espoir et de vent.
Très joli.
Un épigramme. Un poète à la douzaine se vendait impudemment, me discourant de sa veine qu'il écrivait doucement. Moi, que la raison oblige à l'entendre mieux instruit, oui, si doucement, lui dis-je, que tu ne fasses point de bruit. Une épitaphe. Si gît dans cette triste fosse le corps du pauvre Lambedos, qui par avant traître et malin fut écrasé dans un moulin, où voulant son bleu faire moudre, lui-même, il fut réduit en poudre.
On dirait du Charlie Hebdo.
Et la jouissance, pour finir. Alors, la jouissance, le titre, c'est I-O-U-V-Y, 2-S-A-N-C-E. Ça fait jouissance. Mais, sur la page suivante, jouissance s'écrit I-O-U, tréma, I-F-F-A-N-C-E.
C'est pas évident.
Comme quoi, l'orthographe n'était pas vraiment évidente à tout... hein. Donc, la jouissance, mes sens en bonne intelligence s'entendaient avec mes désirs, me recherchant mille plaisirs d'une soigneuse diligence, chacun admirait mon bonheur. Le ciel, pour me combler d'honneur, ne jurait que par mon mérite, et disait au sujet de mes affections que la terre était trop petite pour pouvoir contenir tant de perfection. Mon bien était incomparable, ainsi que ma dame et ma foi. Le plus content auprès de moi ne s'estimait que misérable. J'étais amant, j'étais aimé, la douceur qui m'avait charmé ne me gardait point d'amertume. Car tant plus j'y goûtais et m'y laissant emporter, et tant plus contre ma coutume s'augmentait en mon cœur le désir d'en goûter.
Que c'est beau.
Comme un in-folio.